On connaît tous ce verset qui dit « Une lampe à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » ou l'inverse. Et ce matin, j'ai envie de vous parler, vous voyez, un aller simple pour la gloire, un one-way ticket. Hop. On va regarder ce matin, très rapidement, une petite partie du chapitre 8 de Romains. Alors, vous savez que quand Paul écrit, généralement, c'est du concentré, pas d'automate, mais du concentré d'évangile. Il faut lire pas à pas, délicatement. Donc, je vous propose à votre tour de pouvoir vous arrêter sur ces textes tranquillement cette semaine, par exemple. En introduction, le chapitre 8 nous présente trois grandes réalité. Ce matin, on va essayer de regarder, de s'arrêter simplement, mais fondamentalement sur, pardonnez-moi ce double mot, les fondamentaux de notre foi, sur quoi on s'appuie. C'est du béton bien tassé, et il faut s'appuyer dessus. Alors, le chapitre 8, rapidement, le verset 1 commence par j'espère que vous le connaissez par cœur. S'il y en a un qu'il ne faut pas oublier, c'est celui-là. D'accord ? Non. La première chose qu'il faut revenir de ce chapitre, la réalité d'aucune condamnation. On en a parlé ce matin. À la fin, on va le voir, la réalité d'une gloire à venir. D'accord ? Un ticket simple pour la gloire. Et puis, au milieu, le verset 18 qui nous dit la réalité de la gloire à venir, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça veut dire que il faut impérativement se mettre en mouvement d'où on vient, ce que l'on est et où on va. Ce matin, on va s'arrêter sur cette troisième réalité, qui est au verset 28. Françoise, tu peux nous la lire? Ce verset 28, non? Tu la sais? Ah, tu l'as pas sous le nez. À son plan. Voilà. Amen. Bon. On va commencer par là. La réalité de toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ça vous interpelle, ce verset? Est-ce que vous t'as le sentiment que toute chose concourt à ton bien, tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours par an? Je ne sais pas si quelqu'un sur cette chaise, dans cette assemblée peut dire dans ça. Alors, je me suis posé cette même question et je me suis dit, mais bon, cette phrase, elle est centrée autour du mot « bien ». On est d'accord. Qu'est-ce que je considère étant mon bien? Et puis peut-être que l'auteur de ce texte, comment considère-t-il mon bien? Donc peut-être, quand on lit ce verset, on se dit, il faut se mettre un peu derrière celui qui écrit et qui parle de mon bien. Mon Dieu fait toute chose pour mon bien. Souvent, bien sûr, j'ai du mal à le ressentir, comme vous, je pense. Souvent, les circonstances, même très très souvent, semblent aller dans le sens contraire. Et puis on a l'impression que le bien, il n'est pas le même pour tout le monde. Je ne vais pas développer ça. Mais il y en a qui vivent des situations de ouf. Et ça dure des années. Et puis il y en a d'autres qui passent, on a l'impression, tranquillement. Point d'interrogation. On lui posera la question quand on le verra. Donc, subtilité du bien. Le bien, on peut qualifier ça la providence de Dieu. Vous vous rappelez, il y a quelques mois en arrière, j'ai fait une présidence et je vous avais présenté une pièce de 5 francs suisses. Non, ça vous dit rien, il y en avait qui étaient là. Et sur la tranche de la pièce de 5 francs suisses, il est écrit « Dominus provi debi, le Seigneur pourvoira ». Ça veut dire, la providence de Dieu, elle est là, elle est dans la poche, et une pièce de 5 francs suisses. Vous en avez une? Non, pas moi, mais ça fait rien. Voilà. Alors, on va regarder un peu. Toute chose, c'est-à-dire c'est quelque chose, une activité globale. Les grandes choses, les petites choses, les bonnes choses, les adversités, les afflictions, Dieu prend tout en compte. Il n'y a aucune exception. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu prend absolument tout en compte dans la vie de ses enfants? Est-ce que vous pensez que de temps en temps, il peut oublier quelque chose? Oui ou non? Non. Dieu n'oublie rien. Il voit tout, il sait toute chose. Toute chose, voilà. On peut donner quelques exemples de personnages que vous connaissez tous, hein. Jacob, Joseph et ses frères, hein. On ne peut pas dire que Joseph, à un certain moment de sa vie, il n'a pas douté ou il s'est posé des questions quant à savoir si tout concourait à son bien. D'accord? Il n'y a pas très très longtemps, nos frères nous ont guidés merveilleusement dans l'étude de la vie de Moïse. On a d'accord, Moïse, avant de traverser la mer Rouge, il a attendu de délivrer son peuple. 40 ans en Égypte, plus 40 ans dans le désert. 80 ans, Pierrot, t'as de l'espoir. D'accord? Ceci que le plan de Dieu, le bien que Dieu a pour nous, c'est quelquefois, c'est très souvent différent de ce que l'on peut penser. Très souvent, j'ai tendance à limiter Dieu à ce que je vois, à mon pré carré, à ce que j'ai autour de moi. Et puis on oublie bien vite les promesses qu'il peut nous avoir faites, qu'il nous a faites. Un peu plus loin, toute chose concourt, hein, une activité continuelle, en permanence, on l'a vu, je réinsiste, le verbe ici est aussi au présent. Dieu harmonise toute chose pour le bien ultime des croyants. One way ticket, direction, la gloire. Je pense pas que dans la parole de Dieu, on puisse trouver un chemin tracé tout droit, comme ça, qui soit un peu éclairé tout le long, comme un autoroute, parfaitement. C'est pas possible. Une activité en faveur de ceux qui l'aiment. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le redis une fois, est-ce que quelqu'un dans cette salle aimait le doute que Dieu ne l'aime pas, ou pas tout à fait, ou à 98%, ou à 99,5%? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? C'est pas possible, parce que avant même que nous soyons ses enfants, il nous aimait déjà. Il aime toutes les créatures puisqu'il veut, dans sa volonté, nous sauver tous. En aucun cas, d'autant plus que nous sommes enfants de Dieu, le moindre doute quant à l'amour de Dieu te concernant n'est pas possible. C'est pas possible. C'est du béton. C'est du solide. C'est pas possible. Toute la croix, tout l'évangile, tout le christianisme est basé, c'est une histoire d'amour. Et ça s'arrête là. On continue. On va arriver à un morceau très intéressant que je vais parcourir qui est souvent apprêté à confusion. Je vous dirai ce que j'en pense maintenant. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Un ticket pour la gloire. Ce verset résume, on a parlé de l'origine, du départ de nos vies, et où on va, tout est décrit dans ce verset. Il les a connus d'avance, avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait déjà. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance active, n'est-ce pas ? Jérémie 1,5 nous dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est là qu'a commencé le processus. Alors, ce sont des grands débats quant à la prédestination. Je ne vais pas me rentrer là-dedans, je suis un théologien. Je suis pas un théologien, je vais vous expliquer comment je vois les choses. Moi, je suis cartésien, je suis assez carré, pas très... Voilà. Je suis, tu es, nous sommes des individus temporels. D'accord ? Ça veut dire que personne... dans cette salle, dans ce monde, n'échappe à la loi du temps. On est d'accord ? Oui ? Bon. Dieu est éternel. Donc, éternel, ça veut dire quoi ? Infini, ça veut dire que pour l'éternel, le temps n'existe pas. Alors, je ne sais pas si c'est difficile, moi, dans mon intellectuel, d'imaginer que le temps n'existe pas. Essayez d'extirper cette notion de temps. Les amis, il faut s'y préparer un peu. On va passer l'éternité avec notre Dieu. On est d'accord. Ça veut dire que notre Dieu, pour lui, le temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'il voit en haut, devant, derrière, sur les côtés, en arrière. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Donc, par avance, il connaît nos cœurs. Et puis, peut-être qu'il a vu, qu'il sait qu'il s'est tourné vers lui, tout simplement. Vous pourrez, rassurez-vous, lui poser toutes ces questions. Hein. Pourquoi il a dit, je supprime tout le monde, mais Noé, je le mets sur une barque. Pourquoi il a dit, je choisis Abraham, je me fais un peuple. Pourquoi après, j'ai été choisi, tu as été appelé, je ne sais pas. Mais bon, on lui posera la question. Il les a connus d'avance, donc... Premièrement, il les a prédestinés. Ça veut dire quoi ? Dieu avait déjà planifié la destination. Hein ? Destiné, dans le mot prédestiné, ça veut dire qu'il y a le mot destination. Dieu avait planifié la destination de ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire destination, la gloire. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Qui n'est pas né entre deux pages de la Bible dans cette salle, entre guillemets ? Aïe. Beaucoup, j'espère. Moi non plus. Moi, j'ai le sentiment, sincèrement, d'avoir été appelé. Je ne sais pas pourquoi. Muriel, elle est là, elle acquiesce. Pierrot aussi, au fond de son jardin. J'avais jamais rencontré un chrétien, ni quoi que ce soit. Jamais. Et c'est au boulot, un gars... m'a interpellé, m'a dit « Guy, t'es bien sympa, je vous promets devant le Seigneur », il m'a dit « Crois-tu que tu es un simple beefsteak dû au hasard dans l'univers ?» T'es-tu posé la question d'où tu venais, qu'est-ce que tu fais là et où tu vas ? Ça a commencé là, c'est un truc de fou, ça a commencé comme ça pour moi. Ça veut dire que tu as été appelé un jour ou l'autre, même si tu es né... Grâce à Dieu, si tu es né dans une famille chrétienne, un jour ou l'autre, tu t'es dit oui par la foi. J'accepte ce que j'ai entendu depuis de longues années. Donc, tu as été aussi appelé. On en a parlé tout à l'heure, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, déclarés justes. Non à cause de nos mérites, mais à cause des mérites de Christ. Rappelons-nous que la grâce est une faveur accordée à ceux qui ont démérité. Frères et sœurs, si ce n'est d'avoir répondu oui, on n'y est pour rien, il ne faut pas vous décevoir, dans notre salut. Que dalle. Rien. Quand vous lisez ce verset, je ne sais pas si vous avez le sentiment d'être redevable ou de devoir dire à Dieu, t'as vu ce que j'ai fait là et tout. Rien. Si ce n'est de lui avoir répondu oui une fois et de par ta vie, lui dire merci, tout simplement. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Allez, on y va. Nous serons semblables à Jésus-Christ. On voit que ce verbe, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que le verbe, il est au...
présent.
Non, il a passé. C'est fait, les amis. Quand vous vous levez le matin, vous vous dites, ouais, super, j'ai été glorifié. Ouais, tous les jours, tu te dis ça. En te maquillant, en faisant les yeux, en ce qui te coudra soir. Et pourtant, il nous a glorifiés. Nous serons donc semblables à lui. Dans le salut, dans notre salut, dans ton salut, Dieu prend donc en compte non seulement le présent, mais le passé, le futur. Le plan de Dieu englobe toute éternité. Encore une fois, la parole de Dieu nous le révèle. Tout ce qui s'est passé, Dieu a un plan entre, notamment, regardez la généalogie de notre Sauveur Jésus, et puis, vous comprendrez. Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur, tu seras un jour avec le Seigneur dans la gloire. Alors, vous ne l'êtes pas posé cette question, moi je me la pose. Mais qui, au fait, si on est sûr, qui, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que lui, il est enfant de Dieu? Bon, je résous le problème en disant, seul Dieu connaît ses enfants. D'accord. Seul Dieu connaît ses enfants. Quand je l'espère et j'en suis sûr, je passerai devant le trône blanc, n'est-ce pas? Il n'y aura personne d'autre que Guy Four devant le Seigneur. Il n'y aura personne d'autre que Françoise, ni Muriel ou ce qu'on fait. C'est pour ça que souvent, quand les responsables nous recevons des personnes dans les préparations du baptême ou des choses comme ça, on est clair, on essaye de mettre des projecteurs sur Christ au centre et sur la croix, parce que personne d'autre, ni un ancien, ni un évêque, ni quoi que ce soit, passera devant la croix et dit, mais si, lui, il a fait ci, il a fait ça, que dalle. Seul, face à ton Dieu, seul Dieu, alors je te reçus, rassure, l'Esprit de Dieu souffle en moi que je suis enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on se pose pas un peu des questions, que des fois, Satan vient là, t'es bien sûr et tout. Voilà. Je continue. Voilà. Je gagne du temps, je ne le lis pas, mais vous l'avez sous les yeux. Que dirons-nous donc de plus? Comment on peut remplacer cette phrase? Que dirons-nous donc de plus? Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les versets 31 à 39 nous rappellent, nous martèlent que rien ne pourra empêcher la réalisation du but que Dieu s'est fixé pour ses enfants, la gloire éternelle. Rien, mes frères et sœurs, rien. Rien ne peut empêcher Dieu de faire quoi que ce soit, particulièrement concernant ses enfants. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai dit tout à l'heure, le doute. Nous savons que Satan et ses démons sont liés contre les croyants. Hein. Je ne veux pas les lire, mais Éphésiens 6, 11, 13 et 1 Pierre 5, 8. mais ils ne peuvent pas les arracher de la main de Dieu. Jean 10, 28, 29. Le Seigneur est souverain, il est puissant pour garder ceux qui se confient en lui. Moi aussi, j'ai plein de questions quant à Satan. Satan, avant d'être Satan, c'était le plus bel ange de Dieu. Bon, je lui poserai la question. Mais comment que ça se fait? Mais il n'empêche que c'est comme ça. Donc Satan, le plus bel ange, a décidé. Alors ceux qui ont la philosophie du libre arbitre, entre guillemets, disent ben ouais, de son libre arbitre, il a décidé de devenir l'ennemi de Dieu. Celui qui nous accuse, t'es sûr que t'es vraiment un enfant de Dieu? Ce que t'as fait toute cette semaine, t'es sûr que ça va pas remettre un peu en question, tu vois? Frères et sœurs, ton salut, mon salut, est basé sur l'amour de Dieu pour moi. Tu n'y es pour rien, si ce n'est d'avoir répondu oui par la foi. Satan attend qu'une chose, c'est de faire vaciller comme du béton là, qui claque, tac, tac, tac. Rien du tout. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Verset 32. Dieu a épargné Isaac, le fils d'Abraham, mais il n'a pas épargné son propre fils, puisqu'il l'a donné. Doutes-tu qu'il te donnera tout ce dont tu as besoin pour aller jusqu'à la gloire? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. On a un juste juge, vous les voyez, la cour d'assises, là, hop, c'est Dieu. Encore une fois, je le répète, Satan, l'accusateur des frères, nous accuse jour et nuit devant Dieu. Qui sait qu'il y a Apocalypse 12, 10, pour vous dire que je ne dis pas des bêtises, Apocalypse 12, 10. Combien souvent il murmure à mon oreille, le Seigneur n'est pas content, tu dois te racheter, tu dois regagner une faveur, n'est-ce pas? Même si les accusations de Satan sont valides, si j'ai fait, elles n'ont aucun poids parce que Dieu t'a déclaré juste. Dieu t'a déclaré juste. Quelqu'un là, 12-10? Apocalypse 12-10, là. Tu l'as, et bon frère?
J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé.
Voilà.
À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole et leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Ouais, c'est bon. Jour et nuit, 24 heures sur 24, il est devant Dieu nous accusant. Mais ça veut dire que tu peux rien faire de toi-même, si ce n'est te jeter dans les bras d'amour du juste juge. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Christ, le seul juge, est mort pour mes péchés, il est ressuscité pour ma justification, ta justification. C'est pour ça que Paul peut dire, au premier verset, il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Versets 35 et 36. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. J'ai l'impression que celui qui a écrit ce texte, ou celui, notre cher Paul, il est passé un peu par là, je crois. Il me semble. « Il y en a dans cette assemblée qui passent, qui ont des vies, qui c'est pas le fil de l'épée ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas un chemin tapissé de roses, mais plutôt des épines, vous savez, ou des cailloux dans les chaussures. Mais ses frères et ses sœurs marchent, avancent par la foi et sont des témoignages extraordinaires. Je ne sais pas pour justifier de dire pourquoi, même moi je suis mal à l'aise quand on discute avec ces personnes-là. Dieu connaît toutes choses, ils se sont confiés en eux. Qui me séparera de l'amour de Christ? Rien ne pourra nous séparer. Cela signifie, souligne l'amour inconditionnel. On a du mal à comprendre ça, nous, en tant qu'humains. Les conditions. Je regarde Philippe parce qu'il est en face de moi, et c'est vrai que quand on parle, on aime bien poser les yeux sur des regards bienveillants. En mathématiques, il y a plein de conditions pour arriver à la solution, n'est-ce pas? Souvent. L'amour de Christ, l'amour de Dieu est inconditionnel. L'apôtre ici mentionne sept choses qu'un chrétien peut expérimenter. Paul les a expérimentées, c'est ce que je disais tout à l'heure. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. L'angoisse, je dis simplement l'angoisse. Je suis sûr que quelqu'un dans votre famille, proche ou éloigné, fait des crises d'angoisse ou a des soucis avec ça. Elle n'est pas là, moi c'est maman. Toute ma vie, j'ai vu ma mère traquée par des crises d'angoisse, plus ou moins hautes et basses. C'est des choses qui ne se voient pas. On n'en parle pas. Mais c'est quelque chose de pas simple. Encore une fois, aucune de ces choses ne peut séparer le chrétien de son sauveur. Alors nous sommes plus que vainqueurs, le verset 37. On peut remarquer que l'accent est mis sur l'amour de Dieu comme base de notre assurance et de ta victoire. C'est pour ça que le doute n'a pas de place dans la chrétienté, dans l'évangile, parce que tout est appuyé sur l'amour du Père, du Fils, pour moi. Voilà, plus que vainqueur. Une toute petite anecdote, c'est pas de moi, hein. On raconte qu'un jour, Charles Spurgeon a vu sur une girouette les mots écrits « Dieu est amour ». Il marchait avec un collègue et il a fait remarquer à son compagnon, le compagnon de Spurgeon, qu'il ne lui semblait pas que ces paroles soient bien appropriées pour un instrument qui, une girouette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne un peu dans toutes les directions. Et son compagnon lui a répondu « Mais Dieu est amour dans toutes les directions, quelle que soit la direction ». Quelle que soit ta direction, où que tu ailles, Dieu est amour, Dieu t'aime. Alors, pour terminer, les versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Déclaration irréversible. J'ai l'assurance. T'as une assurance quand tu montes dans ta voiture? J'espère. Hein. La carte verte, vous l'avez tous dans le porte-monnaie? C'est obligé. Rien ne peut séparer le croyant de l'amour de Dieu. Strictement rien. On peut remarquer, une toute petite analyse du texte. On peut dire que dans cette liste que nous venons de lire, il inclut tous les extrêmes. La mort, la vie, les armées spirituelles, les anges, les démons. Au niveau du temps, le présent, l'avenir. Au niveau des puissances, les puissances d'en haut, les puissances d'en bas, Quelles que soient les puissances célestes ou terrestres, elles ne peuvent rien contre l'enfant de Dieu. Au niveau de l'espace, la hauteur, la profondeur, rien en dessus de nos têtes ni en dessous ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et même au niveau de la création, aucune créature, absolument rien, ne peut contrecarrer le plan de Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais, c'est bon, je vais à peu près finir à l'heure. Le salut, c'est une histoire d'amour. Ses parents qui sont là, mais ça fait rien. Il y a Lucie Rotuneau, quelques semaines en arrière, me dit: Guy, j'ai mon fils, il voudrait te poser une question. Il a entendu quelque chose à l'école du dimanche. Alors on n'est pas trop rassuré, vous savez, quand il y a des enfants qui vous posent des questions, parce que c'est cash généralement, c'est sans fioriture. Léo, je vais au fond de la salle là-bas, il me dit: j'ai entendu, à l'école du dimanche, on m'a dit que j'ai été créé à l'image de Dieu, j'ai un peu du mal à comprendre. Quel âge il a, Léo ?
9 ans.
Bon, je dis: Seigneur, qu'est-ce que je vais lui répondre ? Eh bien, Léo, je vais parler d'amour. Je dis: Léo, est-ce que tu aimes ta maman ? Oh, oui. Est-ce que tu aimes ton père ? Est-ce que tu aimes ta sœur ? Il m'a répondu oui. Ben, je dis: tu vois, ce que tu as de Dieu, c'est que Dieu t'a déposé l'amour dans ton cœur. Toute une des caractéristiques, on n'a pas que ces caractéristiques-là de Dieu, mais je pense que la principale caractéristique que tu as, que j'ai de Dieu, c'est l'amour qu'il a déposé dans nos cœurs. On est capable d'amour. J'espère que tu es capable d'amour pour ton épouse, puisqu'elle t'a fait, ou l'inverse, ou tes enfants, ou tes parents. Nous sommes les seuls êtres vivants. Un chien, mon chat peut m'aimer parce que je lui donne tous les jours des croquettes. Hein, c'est ça, Eric? L'évangile, le salut, c'est une histoire d'amour, frères et sœurs. Il va y avoir bientôt des mariages ou des choses comme ça. Nous sommes des êtres relationnels et cette relation est basée sur l'amour de Dieu, que Dieu a déposé. Vous savez, cette image-là, Dieu dans le jardin, il a soufflé sur la terre et il a donné son esprit, hein, à cette créature qui avait été créée. Dieu permet aux hommes et aux femmes, quand ça fonctionne, d'avoir des enfants, on dit. Ça veut dire qu'il nous confie, on est d'une certaine manière co-créateur. D'accord, hein, il nous confie cette mission. Mais quand cet enfant naît, je ne sais pas trop quand il est conçu, qu'est-ce qui lui souffle cet esprit de vie? J'ai Noémie là devant moi, il y a une Noémie dans l'univers et il n'y en aura pas 250 000. Même si elle avait une parfaite jumelle, comment vous dites ça, monozygote, c'est pas les deux mêmes. C'est une histoire d'amour unitaire entre le Créateur et sa créature. Voilà l'Évangile. Alors, le début du chapitre, je rappelle, commence par la réalité d'aucune condamnation. La fin du chapitre se termine par la réalité d'aucune séparation. Et au milieu, la réalité que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien n'est... Le petit bouquin sur la prédication textuelle dit: il n'y a rien à rajouter. Dans les joies, dans les peines, dans les difficultés, dans les combats, il faut serrer ces textes que Dieu a inspirés à Paul, parce que c'est du ciment, c'est du béton. Si tu vacilles, si tu as des doutes ou quoi que ce soit, cette parole nous a été donnée, t'a été donnée par Dieu pour t'appuyer là-dessus jour après jour. On avance tout doucement, hein, le train-train, on y va, on voit partir les amis, il y a des combats, mais c'est one-way ticket to the glory.